Ma vision, c'est je sais pas quand et comment je vais arrêter. Je sais pas si un jour j'aurai le courage de dire je m'en vais. Parce que j'ai pas envie. C'est aussi simple que ça. Et je pense que il va falloir qu'il me foute dehors.
Ils sont plusieurs milliers à officier lors de chaque édition du Hellfest, les bénévoles. Je me suis alors plongée au cœur de la double édition 2022 pour écouter avec mon micro quelques-unes de ces personnes parler et être à l'œuvre à l'entrée du festival, derrière les scènes, les bars, sur un site vide ou dans la foule des festivaliers. Au-delà du nombre impressionnant qu'ils représentent, j'ai voulu savoir qui étaient ces femmes et ces hommes de tous âges, de différents horizons sociaux, venus des quatre coins de la France accomplir leur mission, en s'inscrivant alors dans une longue chaîne dont le résultat est le succès que nous connaissons. À savoir un festival ayant accueilli sur 7 jours environ 420 000 festivaliers. Qu'est-ce que s'engager veut dire? C'est quoi être bénévole et en être de cette famille? Et avoir un autre point de vue sur le Hellfest, son évolution et son histoire, celui de ses bénévoles. Bénévole du Hellfest, épisode 5, une parenthèse carrément dingue.
Imaginez, sur le site du Hellfest, vous mettez une grande bulle de verre. Et dans cette bulle de verre, on est tous ensemble, et elle est hermétique, et je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur.
Quand je rentre au Hellfest...
Laurent accueille des personnes à mobilité réduite.
Déjà, quand je commence à arriver à une dizaine de kilomètres, je commence à voir la grande roue, ça commence à rentrer. Là, on commence à rentrer un peu dedans. Donc là, c'est plutôt le calme avant la tempête. Après, on commence à rentrer sur les checks pour pouvoir rentrer sur le site. Voilà. Après, on commence à entendre la musique dès qu'on sort. Là, ça commence à rentrer. Et après, on rentre dans un autre monde. Un monde qui est complètement différent. On pense plus à rien. Personnellement, je ne pense plus à rien. Je suis dans un monde merveilleux. Et puis c'est parti.
Quand on fait un festival, voilà, déjà le réseau il marche pas, donc le téléphone auquel on a accroché toute l'année, il sert à rien.
Benji, accueil parking artiste.
Il n'y a que les gens qui sont physiquement présents qui comptent. On est déconnecté du boulot, voilà, laisse tomber, j'y pense pas du tout. non, je suis focus sur voir mes potes, voir les gens, voir des concerts, aller faire mon shift de bénévolat avec les collègues, les festivals, quoi, rencontrer aussi des gens parce qu'on croise toujours des gens improbables qui sont super, super sympas.
Je reviens à la maison, une des premières choses que je fais, c'est de regarder les titres des infos pour savoir ce qui s'est passé dans le monde, de quoi on parle, parce que vraiment, j'ai connaissance de rien, rien, rien du tout.
William, responsable billetterie mineure et H2O.
Et ouais, c'est une vraie déconnexion de la vie en général, mais vraiment complète. Hein. Il se passe rien d'autre.
Stéphanie, Cashless et Catherine.
Voilà, un petit épisode là de 2-3 jours, une parenthèse. Un truc un peu dingue, carrément dingue même. Et le lundi matin, on reprend une autre vie.
Xavier, mission gobelet.
Pour moi, c'est à la fois donc, une période de l'année, une bulle, dans un moment de mon activité professionnelle qui est assez dense, parce que généralement, il y a un tourbillon avant le Hellfest, il y a un tourbillon après le Hellfest, et le Hellfest, c'est une autre bulle, et il y a vraiment une déconnexion complète. Et alors cette bulle-là, elle est aussi quelque chose qui renforce ma bulle familiale, c'est-à-dire qu'il y a le fait que mes enfants tout doucement se soient appropriés le Hellfest et viennent le vivre avec nous, c'est aussi une bulle familiale. Et le fait que j'habite juste dans le Hellfest, eh ben, je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là, parce que quand il y a le Hellfest, tout s'arrête dans ma maison, c'est-à-dire on ne peut plus utiliser la voiture. Donc on est dans quelque chose où de toute façon, on est immergé, on est dedans. Alors tant qu'à être dedans, autant le vivre complètement. Et à la fois, cette bulle-là, c'est aussi une bulle partagée avec mes patients que je vois avant ou après le festival où on en parle, on se croise là-bas. Donc cette petite bulle, elle nourrit aussi des liens avec, avec ma famille et les patients que je croise.
C'est un moment en suspens.
Marjolaine, tri des déchets.
C'est 3 jours où déjà, c'est con, mais je suis pas chez moi. En fait, ça me fait partir. J'ai l'impression d'être en vacances et en même temps, je fais ma mission de bénévolat. Mais c'est un espèce de moment en suspens, comme si c'était un autre petit monde qui vivait en parallèle pendant un instant T, pendant ces 3 jours.
C'est comme si on rentrait dans une boulangerie et que c'était nos limites.
Ludovic, responsable Road Main Stage 1.
Donc on prend tout ce qu'on peut prendre et puis on se dit qu'on a tout ce qu'il faut pour l'année suivante.
C'est comme un village, comme une ville. Enfin, tu vois, il y a toute une organisation, il y a un espèce de quotidien. Il y a le public du matin que tu vas croiser aux douches. Il y a le public plutôt de l'après-midi où là tu vas croiser plutôt des familles machin. Le soir. En fait, ça bouge. Je suis en mode Hellfest. C'est un truc que je prépare. Tu vois, la semaine avant le week-end du Hellfest, je vais pas trop prévoir de trucs. Je m'économise. J'y vais tranquille parce que je sais que je vais et charbonner et profiter. Je suis pas forcément ivre, par exemple, au Hellfest. Je vais boire pendant le festival. Mais l'ivresse, ça va venir de plein d'autres trucs, tu vois. De toutes les sollicitations visuelles, des shows qu'on va voir. Mais voilà, en fait, c'est la musique qui va te faire vibrer. Enfin, en fait, le chant guttural, par exemple, c'est un truc, c'est hyper puissant. Enfin, c'est comme si ça te faisait vibrer la terre. Et je sais pas, il y a un espèce de truc où c'est pas toi qui crie, mais en même temps, t'as l'impression de libérer quelque chose. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses, plein d'émotions différentes qui peuvent passer pendant ce week-end de festival. Mais du coup, se condenser, d'être concentré que sur ça, et ben, ça crée un truc, une bulle annuelle.
C'est aussi c'est ces sensations qu'il y a. T'es dans le rush pendant 3 jours, t'as une mission, c'est comme une compétition sportive. Et t'arrives le jour J, c'est la compétition, c'est le match.
Ce que je ressens pendant ces moments-là, c'est que je recharge les batteries. Même si je ressors d'ici, je suis complètement vanné, mais j'ai rechargé les batteries pour 1 an.
Au fil du temps, c'est aussi une rencontre avec cette musique-là. J'ai appris à l'apprécier de plus en plus. Notamment, moi, il y a une zone que j'adore dans LFS, c'est la Warzone. Il y a une espèce d'intensité dans l'expérience vécue à LFS où je me sens vivant et je sens que ça participe à vraiment une sensation de vivre et d'être connecté avec les autres.
Ah bon, on va se préparer à faire un changement de plateau. Je l'ai eu dans 5 minutes.
La cam et l'adrénaline, on l'a eu samedi soir entre Ghost et le groupe d'avant Megadeth. Et entre l'un qui voulait s'installer et l'autre qui voulait ranger, mais à tout prix, mais vite. Donc, en fait, il y a eu une espèce de coup de boost pendant 1h30. Alors, nous, ça nous a fait chier, on gueulait dans tous les sens. Mais en fait, à la fin, on était super contents parce qu'on avait sorti le taf en temps et en heure et que tous les groupes étaient contents. Mais ouais, je pense que c'est ces moments de folie qu'on recherche. C'est comme ça, c'est tout. On sait que de temps en temps, on en a des comme ça et qu'on fait avec. Mais ça n'a pas empêché que le gars, à la fin du taf, il est venu nous voir, il nous a remerciés, il a serré la main à tout le monde. Il était content du boulot qu'on lui avait sorti. Sauf que pendant 45 minutes, il nous a fait chier. C'est le moment le plus important de l'année. Oui, c'est clair que quand on rentre du Hellfest, tous autant les uns que les autres, hein, que ce soit moi qui suis responsable des roads et nous, notre équipe, le lundi ou le mardi, on fait tous la tête quand on retourne au boulot. Hein.
Vraiment, et puis là, cette année, ça a été l'exemple type. Enfin, on a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Enfin, après, je pense que chacun a des réactions qui lui est propre. Moi, pour le coup, ça fait trop de monde d'un seul coup. Là. Enfin, j'ai envie de voir personne, grosso modo. Même si cette année, c'est peut-être un petit peu moins vrai. Mais globalement, après le Hellfest, je coupe les ponts et puis je reprends une vie terre à terre, entre guillemets.
Là, du coup, on sait qu'il y a du calme. On sait que normalement, on va avoir un rush. C'est-à-dire qu'un changement de concert, les gens vont venir prendre de l'alcool.
Je le vis quand même assez sérieusement. Je suis pas en mode fofolle.
Agathe, bar à bière.
Là, nous, le jeudi, quand on est arrivé, c'était déjà en mode apéro bien avancé pour pas mal de monde. Nous, on s'est un peu calmé en se disant, on a 7 jours à tenir. Plus le temps avant-après, donc on est resté plus de 10 jours sur place. Donc on a été assez calme, on a essayé de bien manger, bien dormir, s'hydrater. La chaleur aussi nous a vraiment limité. Enfin, il faisait tellement chaud, on se voyait mal vivre le festival comme des festivaliers et aller travailler après. Il fallait vraiment qu'on, qu'on ait une hygiène de vie assez propre et irréprochable, en fait. Et franchement, c'est ce qu'on a fait. J'ai vu tout ce que j'avais à voir et je me suis vraiment gavée. Parce que j'ai vu 16 concerts le premier week-end et 27 le deuxième. Alors quand je dis vu, c'est pas du début à la fin forcément, des fois je passais juste et je voyais trois morceaux, mais voilà, j'ai quand même pu m'imprégner d'autant d'artistes en si peu de temps, et là aussi c'est quelque chose qui me dit que c'est bien d'être bénévole, quoi, parce que ça nous impose aussi un rythme de vie qui est un peu moins foufou que les festivaliers, et du coup on peut voir plus de concerts.
Alexis Warrior.
Alors, de par le fait que j'ai pu être libre durant le Hellfest, j'ai vécu, on va dire, le Hellfest un petit peu différemment malgré tout que les festivaliers, parce que déjà j'étais dans un camping plus tranquille, donc c'est-à-dire que si la nuit je voulais dormir, c'était plus facile. Par exemple, je pense à la Red Camp où il y a des combats de caddies, où ça peut parfois crier un peu fort sur le camping avec l'apéro, d'autant plus que cette année, le camping donc des Warriors était technicien. On était un peu dans une petite forêt, donc il y avait des arbres. La canicule, pour dormir, on était tranquille.
Un moment que j'ai apprécié, c'est au moment du concert des Guns, qui n'était pas, pas prestigieux, le concert en lui-même. Mais j'ai passé outre ça. Et en fait, je me suis dit, mais il y a 20 ans, 25 ans, ces chansons-là, des Guns, les clips sur MTV, tout ça. En fait, j'écoutais ça. Et en fait, jamais je m'étais dit que j'allais les voir en concert. Un truc que j'aurais absolument jamais imaginé. Et là, à ce moment-là, j'ai trouvé ça génial, quoi. De voir le groupe là et d'entendre, en fait, ces chansons-là qui représentaient des trucs à un moment de ma vie d'étudiante. C'était d'être à ce moment-là au Hellfest. Après, l'ambiance en elle-même non plus était pas non plus prestigieuse, mais moi, intérieurement, je kiffais, en fait.
Moi, cette musique, c'est dans mes gènes. Je suis souvent en poste quand les concerts se produisent. C'est rien, ça, c'est pas grave, parce que déjà, la musique, on l'entend quand même. Deux, une fois que tout le monde est installé, s'il y a pas de problème, les concerts, je peux les voir comme tout le monde. Et puis après, derrière, moi, ça m'arrive de voir 10 heures de concerts par jour, en étant même en poste. Je vais pas dire que c'est secondaire aujourd'hui. Après, c'est toute cette ambiance qu'on a quand ça tape fort, on a le cœur qui nous tape à l'intérieur. Donc ça, c'est ça que j'aime bien.
Très peu cette année.
Stéphane, responsable bar VIP.
Quasiment pas. Le concert, on a essayé de voir le début de Metallica, mais il y avait tellement de monde qu'on était, on est rentré avec Alan tout de suite au bar, et c'est à peu près tout. Donc effectivement, c'est un peu blasant. Peut-être qu'on pourrait. Mais encore une fois de plus, on se dit non, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent. Si jamais il arrive quelque chose, même si on est les chefs d'équipe, on se doit d'être là pour le bar, quoi. Notre mission première, c'est le bar, hein. Sinon on le fait pas et on prend un billet, hein, et on va voir nos concerts, tout simplement. C'est un peu frustrant parfois. C'est vrai que on a vu aucun feu d'artifice. Donc voilà, cette année, je crois qu'il y a 2-3 ans, on avait pu s'échapper un petit peu avec Alan. Maintenant, voilà, c'est comme ça et c'est pas bien grave. C'est le jeu, hein, tout simplement. Alors c'est vrai que les premières années, le bar VIP était collé au main stage, donc on était vraiment là pour le coup au sein du sein, quoi. Je veux dire, même à un moment donné, l'extérieur du bar, on donnait sur les scènes. Je me souviens de Kiss, je pouvais quasiment toucher leurs pieds, enfin j'exagère, mais pas loin. On était vraiment à ras de la scène. Effectivement, là c'était une autre ambiance, mais Le festival a grandi.
Pour les deux week-ends, j'en ai 100. Parce que y a certains en fait que les premiers week-ends.
Une capote, c'est j'ose à peine te demander si elle était vide ou si elle était
vide. Mais du coup, est-ce que j'en profite ouais, à Donf. C'est saut 2002 de dire ça. Déjà, je suis sur le site dès le matin. Enfin, en fait, vu qu'on a nos heures de bénévolat à 10h, dès le matin, on est dans le coin. L'après-midi, on peut flâner. Après, on rebosse un peu, mais on a toute notre soirée. Donc, t'as de quoi te faire une programmation pour aller voir des trucs qui te font plaisir. Cette année, on a assisté à un karaoké magnifique. Un mec avec du vocodeur qui te chantait du Freed From Desire de Gala, là. Avec de la musique métal derrière. Enfin, c'est magique. Et ça, c'était énorme. Enfin, on s'est dit, improbable, tu vois, d'être dans l'espace, je crois que c'était l'espace VIP, et on chantait Gala avec ce mec qui chantait hyper mal au vocodeur. Enfin, c'était génial.
C'est... Il manque quelque chose. Je suis incapable de dire ce qui me manque. Je sais que quand je suis en public, en mode public, le côté de ne pas être côté coulisses à mettre la main dans le combi, ça me manque. Maintenant, dire que je vis mieux les concerts parce que je suis en backstage, c'est pas ça non plus. Je vais te parler d'une expérience où, avec mes petits jeunes, à un moment, il y a Rammstein qui est venu il y a quelques années, et le régisseur général de la tournée de Rammstein en France, c'est un Français, qui était venu en tant que régisseur général sur le Hellfest, et avec lesquels on avait travaillé. Et le régisseur en question, il est venu me voir en me disant, bah écoute, il y a 2-3 trucs à préparer pour le concert de Rammstein avant que le groupe monte. Tu me fais venir 3-4 mecs de tes gars qui sont ultra fans de Rammstein. Je prends mes 4 gars et puis je savais pertinemment ce que j'étais en train de faire, sauf que mes 4 gars, quand je leur ai dit, bah, pour l'instant je vous garde avec moi parce qu'il y a des trucs à préparer pendant le concert de Rammstein, ils faisaient un peu la gueule parce qu'ils se disaient, on va rater Rammstein. On s'installe côté scène, j'attends que le régisseur nous donne les ordres de ce qu'il y avait à faire. Et puis en fait, ils ont eu le bonheur de leur vie. Le chanteur de Rammstein est monté sur scène avec une boîte de bonbons Haribo. Puis il a fait le tour de tout le monde et il a donné des bonbons Haribo à tout le monde. Donc en fait, ils se sont fait payer un bonbon Haribo par le chanteur de Rammstein. Donc après, le mec il est venu venu les chercher. Il leur a dit, bon bah les gars, il y a des confettis qui sont tombés, il faut nettoyer la rampe pour que quand ils redescendent, ils se cassent pas les figures. Ils ont eu fini de nettoyer la rampe et il m'a dit, bah écoute, je garde tes gars encore pendant 20 minutes. Alors pendant 20 minutes, ils étaient côté de scène, ils n'avaient pas accès au concert, à rien de tout ça. Et au bout de 20 minutes, il est venu me voir, il dit, bah c'est bon, je prends tes 4 gars, puis il les a collés côté régie retour, et ils ont vu tout le concert comme ça. Donc eux, ils étaient aux anges. Moi, ayant fait Rammstein en façade, bah je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. C'était bien pour eux, hein, parce que mes 4 bénévoles, ils étaient aux anges, ils ont fait quelque chose qu'ils referont certainement plus jamais de leur vie. Mais moi, je me suis ennuyé.
Ça marche. À tout à l'heure.
Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, t'as tout fait, t'as fait tous les groupes, machin, tout ça. Mais je vais être comme eux dimanche soir. Metallica, ça fait 5 fois que je bosse pour eux. Et quand ils vont arriver, eh ben, je serai comme un gosse, et eh ben, je la pousserai, la caisse.
C'est une colle.
Alors en fait, il
y en a tellement.
Bah alors là.
Mon meilleur souvenir du Hellfest.
Alors pour ma part, comme ça, je n'arrive pas à ressortir de moments particuliers.
Mais ouais, mon premier souvenir en fait. Je pense que c'est le meilleur. Enfin, même si j'ai plein d'autres souvenirs et que je suis sûre que j'en oublie des marquants. Mais d'avoir vu Slipknot, ouais, c'était ouf. C'était un rêve de jeunesse, de pré-ado, quoi, tu vois.
Ah, franchement, que le premier slam de ma vie, c'est ça, hein. En 2011. Il y a un gars qui. J'étais dans les pogos, et franchement, je devais faire 50 kilos à l'époque. Je suis 1m70, donc vraiment fin. Et j'avais les cheveux longs. À l'époque, c'était la seule année où j'ai fait le Hellfest avec les cheveux longs. Donc voilà, j'avais détaché mes cheveux, j'étais dans les pogos. Il y a un gars qui me tend ses mains pour me faire signe de mettre sous mon pied. Et là, je pars en slam et c'est énorme. Enfin, voilà, c'est la première fois que j'ai fait ça. Depuis, j'en ai fait plein. J'en refais tout le temps.
En fait, ce qui me surprend plus que ce que j'aime, c'est l'ampleur que ça a pris. Et même si financièrement, et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ça reste un colosse au pied d'argile, hein, parce que faut pas se leurrer, tout peut s'arrêter presque du jour au lendemain, il suffit d'une nouvelle pandémie, enfin bref, ça peut s'arrêter.
Depuis que je suis bénévole au Hellfest et que j'y participe et que je suis dedans. Le Hellfest, pour moi, ça représente vraiment un énorme festival du spectacle, des masses et des masses de personnes avec la représentation que moi je pouvais en avoir auparavant. Et puis plein de choses qui viennent balayer aussi ces représentations, parce que y a des gens qui me ressemblent, y a des gens, enfin voilà, que j'aurais pas du tout pensé croiser sur ce festival.
Bah là, c'est la première année où j'ai eu l'impression d'avoir un espèce de positionnement schizophrénique. Quand même, c'est énormissime, vraiment énorme. Et ça peut m'arriver parfois de jeter la pierre à des choses qui pourraient être aussi énormes que ça, en termes d'organisation, en termes de moyens déployés, en termes de plein de choses. Et du coup, je me dis, mais pourquoi du coup le Hellfest, j'y contribue, j'y vais, etc. Et parfois, dans l'année, je vais pointer du doigt d'autres personnes. Enfin, ça m'a vraiment... Enfin là, du coup, tu me croises à un moment de ma vie. Je suis charnière. Et en même temps, on adore l'aventure humaine que ça représente. Et en même temps, voilà, on se pose plein de questions.
Ça, c'est compliqué à expliquer. Et compliqué à dire. En fait, le truc, c'est qu'il faut le vivre. Moi, j'ai plein de gens qui viennent régulièrement. J'ai plein de nouveaux qui viennent régulièrement. Et leur première chose, c'est on pensait pas que ça ressemble à ça. La deuxième, on ne voyait pas le travail comme ça. Et la troisième chose, c'est mais on ne peut plus le faire autrement. Tous ceux qui sont rôdes avec moi, je peux plus leur dire bah demain tu retournes dans le festival. C'est plus possible pour eux. J'ai envie de dire c'est une drogue. C'est une bonne drogue, mais c'est une drogue. On a goûté à ça, on n'a pas envie de repartir.
En fait, il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est qu'on trouve de plus en plus de personnes qui n'écoutent pas du métal tous les jours et qui se retrouvent au Hellfest. Gros débat, parce que du coup, ces personnes-là viennent pour le côté Disneyland du Hellfest et pas pour le côté musical. Mais ça montre aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre univers, qu'on va arrêter de croire que... qu'on décapite des chats sur scène. Enfin voilà, l'idée c'est de... Je pense que oui, le Hellfest aide vachement à rendre la musique extrême accessible à tout le monde. Mais ouais, pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même deux styles de public qui viennent. Il y a vraiment les gros aficionados qui écoutent du métal H24, qui connaissent tout. Qui connaissent tous les styles de métal parce qu'il y en a beaucoup trop. Les gens un peu plus curieux. Et je pense que l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on enlève les gros groupes de main stage... Eh ben, du coup, il n'y aura plus les curieux. Mais je pense que ces curieux-là, ben, ils font aussi vivre le Hellfest. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pour l'instant, je trouve que le Hellfest l'a bien trouvé. Enfin, moi, ça ne m'a jamais dérangé de voir des gens costumés qui viennent pour des EVG, des choses comme ça au Hellfest. Mais je sais que c'est un sujet assez critiqué. Donc, voilà.
Je pense que c'est à la fois une extraordinaire... aventure collective. Pour moi, c'est comme si il y a une utopie qui s'est construite. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un rêve en tête, qui a réussi à construire une relation avec des élus, avec la population, et qui a développé un lien qui fait que cette aventure a pu se faire. Et cette aventure, on sent qu'elle est partie pour vivre durablement, pour marquer complètement le territoire dans lequel elle est. Et à la fois... Il y a quelque chose où je sens que ça va aussi, ça transforme la ville. J'ai un petit peu peur que ça devienne trop gros, trop grand, que quelque part on perde quelque chose qui faisait partie du charme de la ville, c'est qu'à la fois elle avait une identité, elle avait une dynamique, et le Hellfest a vraiment participé de cette dynamique culturelle et festive. Mais si ça devient quelque chose qui devient Disneyland ou qui devient trop gros, j'espère que ça restera une dimension, une taille. Voilà, qui n'est pas de l'effet inverse.
Et je pense que inconsciemment, c'est pour ça que je doute encore de est-ce que je me désengage l'an prochain, machin, tout ça. Il y a ce truc de j'ai l'impression d'avoir la chance, tu vois, entre guillemets, d'être bénévole. Donc c'est peut-être ça ma manière d'être, de me dire j'en fais partie, tu vois. Enfin, je sais pas. Bah, en vrai, je me questionne aussi par rapport à ça. Enfin, est-ce que c'est moi qui ai de la chance d'être bénévole au Hellfest ? Ou alors, est-ce que c'est eux qui ont de la chance de m'avoir ?
Non, non, je suis content de le faire. Des fois, c'est ce que je disais en conclusion d'un mail que j'ai envoyé à une des personnes de la direction. Toutes les emmerdes qu'on a pendant l'exploitation et pendant le festival, ça reste des anecdotes après. Et donc, on les oublie facilement. C'est pour ça qu'on est toujours prêt à revenir.
Du coup, ça, voilà, ça représente la, la fête de mon village. Enfin, c'est énorme en fait d'avoir cette fête-là, la fête du village. Dans tous les villages, il y a des fêtes, mais il n'y a pas des Hellfest dans tous les villages, quoi. Donc, c'est une chance.
C'était Bénévole du Hellfest, un documentaire de Salima Kétard. Avec Noam, Benji, Alexis, Xavier, William, Laurent, Stéphane, Stéphanie, Agathe, Ludovic, Gwen et Marjolaine. Merci à eux et à leur équipe pour leur accueil. Vous pourrez retrouver le podcast de cet épisode sur alternatefm.net. À suivre. Forget there's a price you can pay, 'cause I am the game and I want to play.